Europe 1, 17h, 18h, clap. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you on laisse un peu. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission. Alors bienvenue dans le monde féerique de La La Land, le petit chef-d'œuvre. Je dis ça parce que moi j'ai adoré ce film de Damien Chazelle. Pourquoi cette musique ? Pour vous annoncer que le réalisateur franco-américain de La La Land mais aussi de Babylone sera le prochain président du jury de la Mostra de Venise qui se déroulera du 30 août au 9 septembre. Alors je pense que cette décision donne le ton d'une édition qui devrait quand même être riche en événements puisque c'est une date anniversaire, la 80e Mostra de Venise, un anniversaire important pour l'un des festivals les plus attendus de l'année. Et Damien Chazelle, hein, faut le dire, sera pas en terrain inconnu. Il connaît déjà la Mostra puisqu'il en avait assuré l'ouverture en 2016 avec justement La La Land et en 2018 avec First Man. Moi, c'est une nouvelle qui me réjouit. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie, Olivier?
Moi, je suis très très content. J'aime beaucoup Damien Chazelle, aussi bien son côté Jacques Demy que son côté Hollywood Babylone, comme on a pu le voir récemment. Et effectivement, cette édition s'annonce prometteuse, notamment avec le prochain Luc Besson, dont je ne peux pas vous dire plus de choses, mais qui est quand même assez extraordinaire. Et je vous annonce aujourd'hui, il y aura sans doute un prix pour Caleb Landry-Jones, encore. Donc oui, très hâte de voir ce que ça va donner.
En fait, le festival est déjà écrit. Les prix sont déjà distribués, les films ont déjà été vus.
J'aime bien faire des petites prédictions comme ça.
Ce qui est formidable dans ce réalisateur, c'est l'éclectisme à la fois de son cinéma, donc son regard sur le cinéma. C'est un amoureux du cinéma, ce qu'il faut pour présider un festival.
Tout de même. Et alors, Sophie va être contente puisque une femme sera à l'honneur, c'est souvent le cas à la Mostra de Venise, la cinéaste française Alice Diop, 44 ans, présidera pour sa part le jury de la meilleure première œuvre qui décernera le Lion du futur, qu'elle a d'ailleurs remporté en 2022 évidemment pour Saint-Omer. Elle a également reçu le grand prix du jury. Donc voilà, elle a pour le moment à son actif un seul long métrage.
De fiction, car elle était documentariste de longue date, et un très beau film de fiction, de l'art du plan fixe sous influence Ackerman, et un grand film aussi de tribunal, de procès, vraiment que j'avais, comme vous le savez, Laurie, adoré. C'est un peu ma chouchoute, Alice Diop.
Je sais.
Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains.
Nina Simone tout de même.
Ouais, Nina Simone et cette phrase, hein, c'est ce qui vraiment ressort du film. Nous sommes toutes des monstres terriblement humains. Voilà un petit extrait de Saint-Omer. Sans transition, séisme dans le cinéma français avec l'annonce cette semaine faite par Adèle Haenel, l'actrice de Suzanne des combattantes ou encore Portrait de la jeune fille en feu, qui déclare arrêter sa carrière au cinéma. Alors Adèle, faut le dire, elle est réputée pour ses prises de position. C'est une actrice engagée contre les violences faites aux femmes, contre le sexisme, mais aussi contre le capitalisme. Et bien cette fois, elle va plus loin pour que sa parole soit entendue et elle décide donc de politiser son départ du cinéma français. Je peux vous dire que cette nouvelle a fait énormément réagir, hein, dans les deux sens. Il y en a qui sont très contents, il y en a qui se moquent d'elle. Vous en pensez quoi? Et déjà, est-ce que vous y croyez? Tous les deux.
Ah oui, moi j'y crois. Il y a beaucoup d'acteurs qui disent des choses qui font rien. Elle fait ce qu'elle dit. Alors maintenant.
Pour combien de temps ?
Non, elle va le faire. Mais c'est vrai qu'on peut lui reprocher de cracher un peu dans la soupe. C'est-à-dire qu'elle reproche au cinéma d'être à la botte du capitalisme. Elle découvre pas que le cinéma a besoin d'argent, c'est la première chose. Et puis ensuite, elle trouve que c'est au cinéma et dans les productions de films qu'il y a un repère, selon elle, d'agresseurs sexuels. Moi, je crois qu'elle se trompe. C'est au cinéma qu'il y a eu le plus de prises de position et aujourd'hui de défense, de lutte contre les agressions sexuelles. Donc, je pense qu'elle se trompe de combat, en tout cas pour le cinéma. Mais son combat politique est important.
Sophie, avant de vous laisser la parole, juste, je cite Adèle, hein, « J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et plus généralement la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère, égocide, raciste du monde tel qu'il est. » Elle a terminé en disant « Je vous annule de mon monde ».
Oui, je vous annule de mon monde. Je crois qu'elle ne dit pas spécialement que l'industrie du cinéma est un repère pour les agresseurs sexuels. Elle dit juste que c'est un reflet du monde dans lequel on vit. Et c'est vrai, en 2023, les femmes restent souvent malmenées, diffamées, dégradées, méprisées au mieux, voire ignorées. Et ça, c'est quand même quand elles ne sont pas agressées. C'est un fait et elle a toujours mis sur la table. Moi, je trouve ça assez courageux de prendre cette décision, de dire « bah voilà, je m'en vais, je me lève et je me casse, comme elle, voilà, comme Despentes l'avait résumé suite au César. Ensuite, précisons tout de même qu'elle va continuer un travail artistique.
On rappelle qu'elle avait quitté également la cérémonie des Césars
en se levant
lorsque Roman Polanski a reçu un prix.
Exactement. Et cela étant, elle se retire du cinéma, donc elle juge trop capitaliste, etc. D'accord. Mais elle continue un travail artistique, notamment avec la chorégraphe Gisèle Vienne. Donc elle ne se retire pas non plus du spectacle vivant, oui, qui lui aussi quand même a quelques casseroles. Donc à voir. En fait, disons que ça s'inscrit dans sa cohérence, dans sa logique. Et surtout, là, elle met en place quelque chose de très intéressant, c'est l'absence. Donc là-dessus, oui, je salue sa logique et finalement la force de ses convictions, effectivement.
Autre news cette semaine, elle concerne Johnny Depp qui va d'ailleurs beaucoup faire parler de lui la semaine prochaine puisqu'il sera sur la croisette en ouverture du Festival de Cannes pour présenter Jeanne Dubarry aux côtés de Maïwenn. Mais c'est pas cela qu'il fallait retenir cette semaine de l'actualité. Nous avons appris que Johnny Depp va réaliser cet automne un biopic sur le peintre Modigliani avec Al Pacino, mais aussi Pierre Niney. Ça, c'est une sacrée nouvelle. Ce sera son deuxième film en tant que réalisateur, 25 ans après The Brave, où il jouait aux côtés de Marlon Brando. Le film avait été présenté en compétition au Festival de Cannes en 1997. Hein. Ça date, il est un peu resté dans l'oubli derrière.
Bah, normal, et vous... c'était pas très bien quand même. Voilà. À part Marlon Brando, c'était quand même vraiment un gros foirage. Hein.
Un peu raté. Ce nouveau projet marque également les retrouvailles donc, de Johnny Depp et Al Pacino, plus de 25 ans après s'être donné la réplique dans Donnie Brasco, évidemment. Et pour terminer, Al Pacino sera coproducteur du film.
Bon, eh ben, écoutez, les films de peintre, c'est à qui tout
doux. Oui, on a un petit peu peur. On sait pas.
Moi, j'ai beaucoup aimé j'ai une passion pour les films de peintre. Turner, Caravage, etc. Donc pourquoi pas ? Modigliani, c'est bien, pourquoi pas ? Derrière la caméra, Johnny Depp peut être aussi incertain que devant la caméra. C'est ça qui peut être flippant.
Bon, hein. Maïwenn vous en parle. En 25 ans, oui, Maïwenn en parle en ce moment.
Déjà, les films de peintre, moi, personnellement, ça me donne vraiment des cauchemars, je crois. Ça me file le frisson. Mais alors, en plus, que va faire Pierre Niney dans cette galère ? Je ne sais pas. Sur Modigliani,
ça y est, vous avez condamné le complexe.
Je ne demande qu'à être surprise. Je ne demande qu'à être agréablement surprise. Et ça m'arrive souvent. Je râle avant et puis je me dis, ah, finalement, c'est bien. Mais là, j'avoue, Johnny Depp qui filme Modigliani. Modigliani, c'est quand même un petit peu complexe. Et en plus, avec Pierre Niney là-dedans, on ne parle même pas d'Al Pacino.
Non, mais c'est trop neuf. Pierre Niney peut sauver le film. On vous en reparlera évidemment dans
le
film.
C'est vrai qu'on adore Pierre Niney.
Voilà. Et il y en a un autre qu'on adore, c'est Tim Burton.
Et oui ! Et ça nous réjouit.
Alors, c'est la suite de Beetlejuice et la date de sortie donc pour les États-Unis a été annoncée cette semaine. Ce sera le 6 septembre avec au casting Jenna Ortega. Mais on n'a pas encore de date pour la France. Hein.
Oui, mais ça datait de quoi ? De 88, je crois. Donc, il a fallu du temps. Il a mis du temps. Il a pu réfléchir à son histoire. Je crois qu'il a rencontré l'actrice qu'il lui fallait, c'est Jenna Ortega. Il l'a mis en scène pour cette série sur Netflix,
oui,
mercredi.
Vrai.
Je crois qu'il a eu un crush et ça a dû déclencher plein de choses.
C'est
chez
son
lui.
Nouveau Johnny Depp, en fait.
Et puis il y a eu un crush public aussi. C'est-à-dire que maintenant, il y a la Gen Z connaît vraiment Tim Burton grâce à Jenna Ortega. Et je pense que c'est très bien, pas seulement qu'il surfe, parce que je pense que ce deuxième volet, il avait en tête depuis très longtemps. Quand on lit les livres de Tim Burton, ça l'obsède, effectivement, depuis quasiment 30 ans. Mais voilà, il profite de cette occasion offerte par le succès de la série et on peut que s'en réjouir.
On se réjouit aussi de retrouver maintenant Didier Alouche pour son JT d'Hollywood, le dernier, avant qu'il parte au Festival de Cannes.
Europe 1, Clap, le JT d'Hollywood, Didier Alouche.
Salut Laurie, salut à tous. Vous l'avez déjà dit dans l'émission, le Festival de Cannes démarre mardi. Si je vous parle de Cannes alors que j'en suis exactement à 9757 km et 750 mètres, oui, j'ai calculé, c'est qu'à Hollywood, on va observer ce Cannes de très très près. En effet, vu d'ici, Cannes, ce n'est plus juste Cannes, ce qui est déjà énorme, c'est la première rampe de lancement dans la course aux Oscars. Depuis l'an dernier et les projections triomphales de Top Gun et d'Elvis, Cannes est revenu au sommet dans la liste des festivals plateforme vers une nomination en meilleur film, voire beaucoup plus. L'an dernier, 30% des films nommés en meilleur long métrage sont passés par la croisette Top Gun Maverick et Elvis donc, mais aussi la palme sans filtre du président du jury cannois de cette année, le Suédois Ruben Östlund. Hollywood se demande donc quels seront les films de cette année qui tiendront le coup jusque mars prochain et la 96e cérémonie des Oscars. on miserait bien quelques copecs sur Killers of the Flower Moon, le nouveau Martin Scorsese, que tout le monde attend avec tant d'impatience, ou encore sur le cinquième Indiana Jones qui devrait remuer la croisette, ou pourquoi pas sur Asteroid City, le nouveau Wes Anderson avec sa flopée de stars. Pour savoir si ce sera l'un de ces trois films ou alors un autre que personne n'attend, il faudra vous armer de patience, mais pour ces films et tant d'autres, tout le monde se souviendra que tout a commencé à Cannes.